Radio Okapi.
Ni corrupteur, ni chien compétent, c'est la campagne lancée ce lundi au Kasaï central par la nouvelle société civile congolaise. La campagne vise à rappeler aux députés provinciaux leurs responsabilités dans le choix de nouveaux dirigeants, indique le coordonnateur de la structure. Clôture ce lundi du mois de Ramadan. Au Maniema, les fidèles musulmans organisent la prière d'Eid el-Fitr dans différents lieux publics sous l'égide de l'imam Cheikh Saleh Idi Manouswa. Notre invité, c'est le professeur Omer Koutoumissa Kiota, ministre honoraire à l'éducation nationale. Il fait sa lecture de la réforme qui porte sur la gratuité de l'enseignement fondamental et formule quelques recommandations au gouvernement. Bonjour à tous. Ouvrons ce journal au Kasaï central. La nouvelle société civile congolaise lance la campagne « Ni corrupteur, ni incompétent ». Cette campagne vise à rappeler aux députés provinciaux leurs responsabilités dans le choix des nouveaux dirigeants, a indiqué à Radio Okapi le coordonnateur de la structure en province. Albert Ngalamouloumé indique que toutes les batteries sont mises en marche pour dénoncer ceux qui corrompent et se laissent corrompre. Il a dit à François Kadima.
Cette campagne vise essentiellement à sensibiliser les députés provinciaux qui sont les grands électeurs au vote responsable et utile. Au cours de cette campagne, nous allons appeler les députés provinciaux au non-monnayage de leur voix et aux candidats gouverneurs au non-achat des voix. Parce que ici au Kasaï central, nous avons une expérience très malheureuse depuis les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs qui sont déroulées depuis 2006 jusqu'à ces jours, à un comportement que nous avons toujours décrié les pratiques de monnayage et d'achat des voix pour soit être élu ou pour élire.
8 candidats sont en lice pour l'élection au poste de gouverneur et vice-gouverneur du Kasaï oriental. Un de ces candidats a été présenté et soutenu par l'Union sacrée pour la nation. C'est lundi, ces candidats battent leur campagne à l'Assemblée provinciale pour présenter le projet de développement de la province avant l'élection qui aura lieu le vendredi 6 mai prochain. Dans ce reportage, Esther Dalafina nous présente les 8 candidats à l'élection de gouverneur de province au Kasaï oriental.
Badibanga Sampo Kabisala s'est présenté à cette élection en qualité de candidat indépendant. Il est le promoteur du complexe scolaire Bonsambi et personnel retraité des Nations Unies. Il tente sa deuxième chance à ce poste après avoir été candidat malheureux en 2011. Patrick Mathias Kabeyamachi Abidi, cadre de l'UDPS Kinshasa, c'est le seul candidat que l'Union sacrée de la Nation a présenté à ce poste après l'élection primaire organisée à Safari Beach à Kinshasa par son parti politique. Pierre Beyakabambi est candidat indépendant. Il est le plus jeune des candidats à ce poste de gouverneur et fils d'un acteur économique du Kasaï oriental. Alidor Beyamulumba, cadre de l'UDPS, il est connu du public pour avoir travaillé comme directeur provincial à la Direction générale des migrations pendant plusieurs années au Kasaï oriental. Trésor Pombo Mukadi est président de la plateforme U26, mais va à cette compétition comme candidat indépendant. Francis Mwanzamulumba, Thierry Mponda Mudimba ainsi que Corneille Kabangantita sont tous membres de l'UDPS, mais se sont présentés comme candidats indépendants à cette élection. Deux femmes sont allées comme colissière, celle du candidat de l'Union sacrée de la Nation a même été boutée dehors par son parti, le RDT, pour avoir accepté d'occuper ce poste sans l'avis de sa hiérarchie qui l'avait décliné. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Alissala, dans la Mongala, 6 candidats sont en lice, dont Vicky Ngoy, Aimé Bokungu, José Missiso Mokbaya, César Limbaya et Lissassi. Mais selon l'ONG Action des Jeunes pour le Bien-être Social, AJBS, la tension monte au niveau des états-majors des candidats. En dehors de l'Assemblée provinciale sur les médias locaux, les partisans des uns et des autres se livrent à des menaces contre les députés provinciaux, soit des discours de haine. Voilà pourquoi, dans son communiqué de presse ce lundi, la JBS a tiré la sonnette d'alarme. Elle demande que ces élections attendues de toute la population se déroulent démocratiquement. Et puis, au Congo central, les candidats au poste de gouverneur ont des droits, mais aussi des obligations pendant cette période de la campagne électorale qui débute ce lundi 2 mai. C'est ce que le rapporteur adjoint de la centrale électorale en séjour à Matadi a rappelé hier aux 22 candidats gouverneurs du Congo central. C'était à l'issue d'une séance de briefing organisée par le secrétariat exécutif provincial de la CENI à l'intention des candidats gouverneurs et de la notabilité du Congo central. D'après Paul Moindo, l'idée de la CENI en organisant cette rencontre est de dicter aux candidats une ligne de conduite à suivre pour la réussite de toutes les étapes de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs au Congo central. Paul Moindo, rapporteur adjoint de la CENI, s'exprime au micro de Nana Plurichmambou.
Pendant la période de la campagne, il y a un certain nombre de droits et d'obligations que doit avoir chacun des candidats. D'abord, les candidats ont droit d'organiser des manifestations. Ils ont le droit de disposer des affiches, mais pas dans des endroits ou dans des bâtiments, aussi les bâtiments publics. Les candidats ont le droit de dénoncer toute forme de fraude, toute forme de violation, d'harcèlement. Il y a également les droits que nous accordons aux observateurs, parce que nous voulons que les élections que nous allons organiser puissent s'organiser dans une transparence. Et elles doivent être crédibles. Les candidats, ils ont également des obligations. Qu'ils ont l'obligation de respect à l'ordre public, de préserver les bonnes mœurs. Et ils doivent également s'interdire tout comportement et tout propos de nature à porter atteinte à la sécurité, à la dignité, à la vie privée, à l'intégrité physique et morale des personnes. Vous ne pouvez pas, pendant que vous aspirez déjà à devenir le prochain gouverneur de la province, que vous-même vous puissiez être le premier à pouvoir détruire la province. Que toute forme d'intimidation, toute forme d'incitation à la violence, incitation à la haine, des propos diffamatoires, les discours séparatistes, tribaux, vous devez vous abstenir de tenir ce genre de propos.
Dans un autre registre, à Massimanimba, dans la province du Kwilu, le trafic est complètement bloqué au niveau du village Kina, situé dans le secteur de Paikongila, sur l'axe routier qui relie la commune rurale de Paikongila à la ville de Kikwit et de Kinshasa. À la base, un gros véhicule de type remorque a connu un accident vendredi dernier sur un pont. Le pont Lubamba et l'a complètement endommagé. Le député provincial Dario Kimukedi, qui le dit, précise que cet accident n'a pas causé mort d'homme, sauf des dégâts matériels. Il exige la réparation de ce pont par le propriétaire de ces véhicules, qui, selon lui, n'est pas encore dégagé du pont. Irène Boma nous en parle.
C'est depuis la nuit du vendredi 29 au samedi 30 avril 2022 que cet accident de circulation s'est produit sur le pont jeté sur la rivière Lumbamba, situé dans la localité de Kina, à 6 km de la commune rurale de Paikongila, en territoire de Massimanimba. Le député provincial Dario Kimukedi affirme que ce véhicule qui a déraillé a complètement endommagé le pont, bloquant ainsi la circulation sur la route principale qui relie Paikongila à la ville de Kikwit et celle de Kinshasa. L'élite de Massimanimba exige la reconstruction de ces ponts à la charge du propriétaire du véhicule.
Ce véhicule-là a complètement déraillé, brisant ainsi la structure principale du pont. La capacité était au-delà, c'est ainsi que cet accident est arrivé. À l'heure actuelle, le véhicule n'est pas encore dégagé, mais des tirs forts sont déjà sur place pour tenter d'extirper le véhicule. La circulation est bloquée au moment où nous parlons. Alors, je lance un appel à l'entité du territoire, au bourgmestre de la commune rurale et à la population elle-même de ces ponts en charge, même à la police, pour que les civils responsables soient identifiés et que les travaux de réparation de ces ponts puissent reprendre. J'insiste qu'ils puissent prendre en charge les travaux avant que le véhicule ne lui soit remis.
Pour Dario Kimukedi, ces ponts brisés dont la capacité est de 30 tonnes est de grand intérêt vital parce que c'est le seul pour l'instant qui désenclave les milliers. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Au Kasaï central, les tribunaux de grande instance de Kananga condamnent 25 personnes accusées des viols. Le jugement a été rendu le week-end à la suite de l'audience foraine organisée à Tshikagi avec l'appui de la section d'appui à la justice de la MONUSCO.
La plupart des cas se sont déroulés pendant la période des événements de Kamuina-Sapu où certaines femmes et filles ont été violées. Les victimes et leurs familles réclamaient que justice soit faite. 40 dossiers ont été jugés lors de ces audiences foraines organisées par le TGI Kananga. Après la condamnation des 25 personnes parmi les accusés, les conseils de victimes s'est dit partiellement satisfait parce que d'autres personnes ont été acquittées. Maître Saoul Moussaou.
40 dossiers quand on a pu obtenir la condamnation de 25, c'est déjà un bon départ. Et pour le reste, nous nous disons peut-être qu'en appel, qu'on pourra voir améliorer les scores. Comme il y a des acquittements, il faudrait que nous puissions voir un peu la motivation du juge d'une manière ou d'une autre.
Du côté de la défense, l'on estime qu'il y a eu absence de preuves sur la majorité des dossiers, notamment le manque d'acte de naissance pour les filles déclarées mineures. Maître Victor Kabongo.
Absence de preuves dans beaucoup de dossiers. Le juge ne peut pas les couvrir parce qu'il y a eu aveu dans le chef des prévenus non plus. La prétendue théorie des victimes et témoins a beaucoup d'insuffisances ces derniers temps. On ne peut pas croire que quelqu'un est mineur alors qu'on n'a pas pu appuyer ses allégations par un acte de naissance.
Signalons que ces audiences foraines organisées par le TGI Kananga avec le financement de la MONUSCO se sont déroulées du 20 au 29 avril. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, la société civile du secteur de Bapéré alerte les autorités sur l'activisme des miliciens Mai Mai de l'Union des Patriotes pour la Libération du Congo, UPLC, dans cette région du territoire de Lubero. Ces miliciens, qui occupent plusieurs entités en majorité des carrés miniers, exigeraient actuellement aux opérateurs miniers de la région un paiement d'une taxe illégale. Cette structure citoyenne plaide pour l'intervention des autorités pour la fin de l'activisme de ce groupe armé dont les secteur de Bapéré, grâce à Mzati.
Ces miliciens armés sont présents dans les villages Gelumbe, Isigo et Liboyo dans les groupements Bapakombe où ils ont érigé des barrières exigeant à chaque conducteur de moto une somme de 500 francs congolais pour tout passage. Selon la société civile locale, ils se sont installés également dans les carrés miniers de Biloulou et Kassopo du même groupement et dans les sites miniers de Bilendu, Kiria et Maoussa. Ils progresseraient actuellement jusqu'à Kaeku dans la région de Njiapanda. D'après la même source, dans ces entités, ils soumettent les habitants à des travaux forcés et récoltent chaque semaine des vivres auprès de chaque agriculteur. Ils exigeraient même des taxes forfaitaires aux commerçants de la région, rapporte la même source. Depuis la semaine dernière, ces miliciens ont annoncé aux opérateurs miniers l'instauration d'une taxe mensuelle dont le montant n'est pas encore fixé. Cette situation est à la base du déplacement de certains habitants de la région. L'administrateur du territoire de Lubero s'est dit préoccupé de cette situation et annonce avoir pris certaines mesures pour mettre fin à l'activisme de ces miliciens de l'UPLC. Toutefois, le colonel Alain Kiwewa appelle ces Mai Mai au bon sens, car, dit-il, leur leader a pris part aux consultations des groupes armés à Nairobi. Boutembo, grâce à Mzati. Radio Kapi.
Au sud Kivu, les FARDC ont repris depuis le week-end le contrôle de trois bastions des groupes armés locaux Mai Mai, Kijangala et Allié dans le moyen plateau de la chefferie des Bafouliru en territoire d'Ouvira. Les bases arrières de ces miliciens des Kaungwe, Kabere Bouleza et Mubere ont été abandonnées et l'ennemi en débandade est poursuivi en profondeur en ce moment par les troupes loyalistes vers les hauts plateaux d'Ouvira. D'après le porte-parole des FARDC à Ouvira qui livre l'information, le lieutenant Marc Elongo, c'est le commandant du secteur opérationnel Sokola 2 Sud, Sud Kivu, qui a lancé lui-même cette opération de traque des miliciens pour sécuriser les populations de cette région des moyens plateaux d'Ouvira. Le général de brigade Ramazani Fundi est rentré ce lundi à Ouvira, mais ses troupes poursuivent les miliciens qui sont coalisés aux rebelles burundais. Ce commandant des FARDC appelle la population locale au calme et à se désolidariser de ce groupe rebelle. Aux différents groupes dans la région, le général Rama les appelle à répondre à l'appel du gouvernement de la RDC en adhérant au programme PDDRCS. Le mois de Ramadan se clôture ce lundi 2 mai sur toute l'étendue du pays. Au Maniema, les fidèles musulmans ont organisé la prière d'Eid el-Fitr dans différents lieux publics de la place dont le stade Joseph Kabila sous l'égide de l'imam chef d'entité islamique du Maniema, Cheikh Saleh Idi Manoussoura. Ce dernier a exhorté ses fidèles au même comportement observé durant ce mois de Ramadan. Reportage de Florence Kizalunga.
Maniema, berceau de l'islam en RDC, des milliers de musulmans ont répondu présents à cette prière ayant sanctionné le mois de Ramadan avec pompe. Cheikh Saleh Idi exhorte ses fidèles au même comportement sacré.
La comico entité islamique du Maniema, sous notre guide, venons de célébrer dans la paix et la quiétude la prière d'Eid el-Fitr marquant la fin du jeûne du mois sacré de Ramadan. Nous invitons tous les musulmans à observer les mêmes comportements qu'ils ont observés durant ces mois pendant toute leur vie quotidienne. Par la même occasion, nous exhortons les fidèles musulmans de célébrer cette journée sacrée dans la paix, l'unité et l'amour envers les prochains sur toute l'étendue de la province d'Imaniema.
Les musulmans, contents de terminer ces mois, ils lui promettent mener la même vie. L'un d'eux parle.
Ben là, nous sommes très contents parce que nous avions commencé et nous arrivons à la fin. Donc, tout ce qu'on menait comme péché, en ce moment ici, notre prophète nous recommande de bannir tout ça et vivre la sainteté. Ça ne sera pas bien. Pendant ces mois, vous vivez la sainteté et juste après les mois, vous recommencez encore dans vos activités de péché. En tout cas, ça va continuer.
Dans l'amour, la cérémonie de partage s'en est suivie. Ça et là. Kindo, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Tunisie, les célébrations de l'Aïd qui clôturent le mois de Ramadan commencent ce lundi 2 mai 2022 pour de nombreux Tunisiens qui achètent de nouveaux vêtements et des jouets pour les enfants. La tradition pèse lourd sur les budgets en période de crise économique. 16 millions de volailles ont été abattues en France depuis novembre pour endiguer l'épizootie des grippes aviaires, un nombre d'abattages record suite à une flambée inédite dans la région des Pays de la Loire. Le pic épidémique a été passé à la fin du mois de mars et l'épizootie décélère, a cependant relevé le ministère français de l'Agriculture.
L'invité.
Notre invité, c'est le professeur Omer Koutoumissa Kiota, ministre honoraire à l'éducation nationale. Il fait sa lecture de la réforme qui porte sur la gratuité de l'enseignement fondamental et formule quelques recommandations au gouvernement. Le professeur Omer Koutoumissa Kiota s'entretient avec Paul Matendo.
Omer Koutoumissa Kiota, bonjour.
Bonjour.
Gratuité de l'enseignement primaire, garantie à l'éducation pour tous, c'est le thème de la journée de l'enseignement national cette année. Quelle lecture faites-vous de cette réforme ?
La gratuité, j'ai toujours soutenu que c'est une bonne idée. Mais ici, la difficulté, c'est un peu le fait que le vocabulaire fourvoie un peu la mise en œuvre. Parce que même si on dit gratuité, eh bien, ce n'est pas si gratuit que ça. Il y a toujours quelqu'un qui paye quelque part.
Vous dites qu'il y a quelqu'un qui paye quelque part, mais ici, qui paye exactement ?
Ici, c'est l'État congolais. L'État congolais prend en charge l'éducation, l'enseignement, mais est-ce qu'on sait que ce que les parents déboursaient jusque-là, c'est un montant de l'ordre de 9 milliards 600 millions. L'État congolais, pour le moment, ne sait pas réunir ce montant-là. C'est pourquoi nous avons conseillé de revoir la notion même de la gratuité et de pouvoir laisser certains parents qui ont les moyens de continuer à financer les études de leurs enfants. Si un parent veut mettre ses enfants chez les privés, mais pourquoi vous pouvez l'empêcher ? C'est son enfant et c'est son argent. S'il veut aller chez les conventionnés, laissez-le aller parce qu'il sait à l'avance que ça coûte cher. Mais s'il a fait ce choix-là, c'est que le parent en a les moyens.
Vous conseillez que certains parents puissent financer les études de leurs enfants. Alors, à qui devrait profiter cette gratuité ?
Gratuité devait avoir comme conséquence que l'État récupère tous les enfants qui aujourd'hui sont dans les rues et qui ne sont pas capables d'étudier au motif que les parents ne savent pas payer. Et de cette manière, on n'aura pas d'enfants qui soient exclus de l'enseignement. Je crois que le terme « gratuité » couvre essentiellement cette idée-là.
Vous avez aussi parlé de sa mise en œuvre qui pose problème. Qu'est-ce que vous pouvez recommander au gouvernement justement pour améliorer cette réforme ?
Je crois qu'il faut une planification bien étudiée. Une planification qui se ferait, à notre avis, sur 10 ans. Pour qu'on ait le temps de remplir une première étape c'est-à-dire la construction des infrastructures. Si vous voyez des parents se battre pour aller chez les catholiques, mais c'est d'abord parce que les infrastructures sont acceptables, elles sont bonnes. Donc, premièrement, infrastructure, pour qu'on n'assiste pas à ce que l'on voit là, sous le nom de la gratuité, 200 élèves dans une classe, on n'en sort pas. À ce moment-là, on recule plus que l'on avance. Lorsque on aura fini avec l'étape de construction des bâtiments, eh bien, il faut s'occuper des enseignants. Les enseignants sont parmi les meilleurs éléments et on peut relancer les écoles normales. Vous savez, les écoles normales sont ces écoles-là où on apprend à enseigner aux gens qui sont destinés à l'enseignement primaire. Aujourd'hui, quand vous voyez des enseignants du primaire, c'est des gens qui ont échoué en pédagogique, hein, en troisième, quatrième pédagogique. Ils ne sont pas vraiment adaptés à l'enseignement primaire qui est la base de tout.
Omer Koutoumi Sakiota, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.